La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Angers, il est 19h, l'heure pour la Covidienne de prendre l'antenne. On est ensemble pendant 30 minutes comme chaque jour et nous débuterons cette émission par un entretien avec Laura Desmoulins, professeure d'histoire dans un collège en région parisienne. Depuis l'arrêt de l'école et le début du confinement, elle travaille de chez elle et est en lien virtuel avec ses élèves. Elle nous racontera son expérience et nous donnera aussi son point de vue de professeur durant cette période. En seconde partie d'émission, Alexis vous proposera une chronique autour des témoins de Jéhovah. Tout comprendre sur ces personnes qui viennent taper à vos portes, ce sera à la fin de l'émission. On revient dans quelques instants. Et comme promis, je vous propose d'écouter un échange avec Laura Desmoulins, professeure d'histoire dans un collège de région parisienne, qui nous parle de son quotidien confiné. J'ai eu l'occasion de la voir au téléphone avant les annonces du Premier ministre Édouard Philippe concernant le plan de déconfinement. Certaines données ont peut-être changé, mais cet échange vous offre un spectre assez large de la situation scolaire actuelle. Je vous laisse écouter. Depuis le début du confinement, l'ensemble des élèves restent chez eux, travaillent de chez eux et sont en communication avec leurs professeurs via internet. Une situation inédite. Avec moi pour en parler au téléphone, Laura Desmoulins, professeure d'histoire en classe de 6e et 5e en Ile-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ma première question toute simple, en tant que professeur, comment se passe le confinement ?
Plutôt bien. C'est vrai qu'on doit adapter nos manières de travailler, mais moi qui ai l'habitude de travailler avec le numérique, ça ne me pose pas vraiment de soucis en soi. Il suffit juste de s'adapter et puis d'organiser sa journée, quoi.
Alors justement, travailler de chez soi, c'est une autre organisation vis-à-vis des élèves. Comment les cours sont organisés ? On passe par des diaporamas, par des articles ?
Ouais, alors ça dépend toujours de chaque professeur et de sa manière de travailler à la base, je pense. Moi, je suis très numérique, c'est-à-dire que naturellement en classe, je projette aux élèves un PowerPoint, un diaporama sur lequel ils retrouvent le plan des cours, les notions, les leçons, les documents qu'on étudie. Et donc finalement, via la plateforme des rectorats, enfin c'est-à-dire des académies, l'ENT, l'environnement numérique de travail, je dépose mes documents, mes PowerPoint. Disons qu'il y a un cahier de texte en ligne et que les élèves vont sur chaque séance, enfin la séance qu'ils veulent faire, et ils trouvent donc tout le descriptif que j'ai fait à la séance, plus le diaporama avec les documents qu'ils ont à traiter. Et évidemment, la correction, si je leur donne tout de suite, elle fournit avec. Après, il n'y a pas que ça non plus, parce que c'est vrai qu'il faut quand même garder un contact avec les élèves. Donc moi, j'organise par exemple une fois par semaine avec chaque classe, sachant que j'ai 6 classes en fait, hein, 3 classes de 6e et 3 classes de 5e, je leur organise une session en visioconférence via Skype est pas mal. Il existe aussi la classe à la maison qui a été mise en place par le site du CNED et ça permet de garder un lien avec les élèves puisqu'on les voit directement en vidéo. Moi je profite, je prends un créneau de 30 minutes et puis les élèves en profitent pour me poser les questions qu'ils ont à poser sur le chapitre qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà.
Globalement, cette proximité, ce rapprochement que tu essaies de mettre en place, c'est essentiel selon toi pour garder une certaine motivation chez les élèves ?
Oui, je pense. Et puis, bon, alors c'est vrai que je retrouve pas tous mes élèves. Hein. J'ai pas le 100% d'effectifs qui sont présents sur mes sessions de visioconférence. Je vais en avoir 15 par classe, disons, sur des classes de 25. Eux, ils sont contents aussi de voir que à un moment donné, on se retrouve ensemble à la même heure, au même moment, pour parler. Pour parler d'eux, pour parler de ce qu'ils apprennent, et puis aussi pour se voir, et c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve, hein, d'ailleurs, plus j'en fais et plus je me rends compte que c'est important, que de se voir, de parler en direct, ça a un impact beaucoup plus plus direct. Et même eux, hein, quand on réexplique soit des mots de vocabulaire importants ou des méthodes, par exemple, les cinquièmes, j'ai travaillé la méthode du paragraphe argumenté. On en a reparlé en vidéoconférence et ça a été vraiment quelque chose d'intéressant à faire en direct, quoi, comme si on était en classe, même si les conditions sont différentes. Mais c'est important, je trouve, hein, pour les élèves, pour les maintenir motivés, pour qu'ils se rendent compte que les professeurs sont quand même là, même si on est loin physiquement. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, bien sûr, je ne pourrais pas faire tous mes cours comme ça en visio, mais je trouve que voilà, une demi-heure par semaine, c'est bon compromis, finalement, pour tout le monde.
Et pour ces personnes qui ne participent pas aux visioconférences, qui répondent que très rarement sur les plateformes, comment on se place là-dessus en tant que professeur?
Bah, c'est très compliqué parce qu'il y a des élèves qui donnent, alors volontairement ou involontairement, hein, qui donnent pas signe de vie. Alors bon, après, nous, on a communication quand même avec les chefs d'établissement, les CPE, qui eux se chargent, disons qu'on fait remonter aux CPE les élèves pour lesquels on n'a aucune nouvelle, et eux se chargent d'appeler les familles pour savoir si tout va bien, s'ils arrivent à travailler, si c'est qu'il y a des problèmes de connexion à Internet ou des choses de ce type-là. Donc, on finit par avoir une remontée soit par les parents, soit par les CPE. Après, c'est sûr que les élèves qu'on ne voit pas directement par vidéo, bon, bah, on ne sait pas trop. Ceux qui ne nous répondent pas ou qui ne rendent pas le travail, c'est pareil, on ne sait pas trop où ils en sont. Alors, moi, je sais que dans les collèges dans lesquels je travaille, il y a eu beaucoup de soucis d'accès à Internet. Voilà, quoi qu'il en soit, il est hors de question de pénaliser les élèves que je ne vois pas par Skype ou que je ne vois pas par... pour lesquels j'ai pas de nouvelles parce que je suis pas sûre du tout que ce soit parce qu'ils veulent pas travailler ou parce qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est très compliqué là-dessus, hein. Il n'y a pas vraiment d'autorité à avoir sur le travail. Moi, c'est vrai que je leur demande du travail, mais j'essaye aussi de modérer parce que justement, s'il y en a qui ont des problèmes, c'est très compliqué pour eux et pour les parents de gérer tout ça. Il suffit en plus qu'il y ait plusieurs enfants dans le foyer avec peu d'ordinateurs. Ça devient tout de suite très très compliqué de s'organiser, hein.
Et justement, il y a beaucoup de collectifs qui mettent tout en œuvre pour offrir des ordinateurs à ces fameuses familles dont tu parlais qui n'ont pas de moyens. Vous avez des dispositifs spéciaux que vous mettez en place pour ces élèves-là, si vous en avez?
Oui, alors bah moi j'ai eu le cas d'un élève justement qui m'avait envoyé un mail via son smartphone, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont donc des smartphones, mais pas forcément des ordinateurs. Et c'est bien parce qu'ils ont accès à Internet. Ils ont accès à l'ENT, aux documents, mais le problème, c'est que c'est très petit. Donc, pour faire leurs devoirs, ils n'ont pas forcément, en maths, par exemple, ils n'ont pas forcément les logiciels. Donc, ça devient vite compliqué avec un smartphone. Et donc, moi, j'avais eu un mail d'un élève qui m'a dit, voilà, j'ai pas d'ordinateur, je peux pas envoyer le travail, le paragraphe comme ça, comment je peux faire? Et moi, j'ai contacté le chef d'établissement qui a mis à disposition un ordinateur portable. Le papa est venu récupérer l'ordinateur au collège. Et dans l'autre collège où je travaille, il y a aussi des tablettes. Alors, je sais plus à quoi étaient destinées à la base ces tablettes, mais en tout cas, ils avaient un lot d'une trentaine de tablettes à peu près qui étaient disponibles au collège et qui ont été prêtées à des élèves qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison.
Par rapport au programme qui est établi sur l'année en histoire-géographie, j'imagine que le confinement et le virus chamboulent un petit peu tout. En termes de programme, on s'adapte, mais on essaie quand même d'avoir une ligne directrice pour finir le programme à la fin de l'année.
Oui, c'est sûr. Oui, il faut continuer à enseigner, il faut assurer la continuité pédagogique. Le mieux, c'est de rester sur des notions déjà vues et de les revoir et les revoir. Mais clairement, pour ma part, moi, je continue mon programme. C'est-à-dire que j'attends pas la réouverture des écoles pour reprendre là où je m'étais arrêtée au moment où ils ont lancé le confinement. Parce que tout simplement, il faut quand même que les élèves acquièrent des notions soit en sixième, soit en cinquième, qui vont être fondamentales pour les années suivantes. Donc, en fait, on est quand même obligé d'avancer. Alors après, il y a avancer et avancer. C'est-à-dire que, oui, je leur donne le chapitre prévu, mais par contre, j'attends un peu moins d'eux. C'est-à-dire que je m'attends pas à ce qu'ils fassent le travail en 20 minutes comme prévu. Ils peuvent le faire en plus de temps. Enfin, disons que j'ai pas de mainmise là-dessus, je leur impose rien, j'essaye de pas leur mettre trop de pression non plus. Par contre, ils savent que ça avance, mais d'ailleurs, les élèves sont assez demandeurs aussi, hein, parce que finalement, ça peut être c'est long finalement pour tout le monde, et les élèves, ça les occupe finalement de travailler, et j'ai une classe notamment qui m'a dit, allez-y madame, donnez-nous à manger, quoi, donnez-nous du travail, donc j'avance moi mes chapitres, je varie entre un chapitre d'histoire, un chapitre de géographie, là j'ai rattaqué depuis cette semaine, puisque c'était la rentrée, j'ai rattaqué sur un chapitre de MC, enseignement moral et civique, et puis voilà, donc j'essaie quand même de varier, de pas rester que sur de la géo histoire pour essayer de les maintenir en forme aussi, et puis de les intéresser au maximum.
Le président de la République a mentionné lors de son élocution la semaine dernière la reprise progressive de l'école à partir du 11 mai. Quel est ton avis là-dessus ?
Je suis un peu partagée, c'est-à-dire que je suis très très contente de retrouver mes élèves parce qu'ils me manquent et puis parce que j'adore mon travail, donc c'est vrai que on s'est reposé beaucoup. Maintenant, c'est bien de retourner travailler vraiment et pas que sur un ordinateur. Donc moi, je suis très contente là-dessus de retourner à l'école pour retrouver mon travail et mes élèves. Par contre, là où ça m'inquiète un petit peu, c'est que j'imagine qu'il y aura des dispositions à prendre, notamment peut-être le port de masque ou de gants. On ne sait pas trop pour le moment. Je pense que ça risque de compliquer un petit peu les choses, même au niveau de l'enseignement ou même au niveau de la gestion des élèves. Donc ça, j'attends encore de voir. J'avoue que c'est le flou, donc on verra bien.
Et c'est d'ailleurs une échéance qui inquiète aussi globalement les médecins, qui avancent que ça serait un risque inutile vis-à-vis de la situation. T'es d'accord avec eux ?
Pas vraiment, parce que de toute façon, il va bien falloir, à mon avis, sortir de ce confinement, et qu'effectivement, les populations les plus jeunes sont les moins à risque, même si c'est celles qui peut-être diffusent le plus le virus. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il va bien falloir sortir. Il y aura peut-être assurément une deuxième vague, quoi qu'il en soit. Et donc peut-être que ce sont les populations les moins à risque qu'il faut faire sortir en premier, dont les enfants, justement. Alors effectivement, pour les adultes qui travaillent, les professeurs, les personnels de service des écoles, peut-être que c'est un risque. Mais je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir y retourner. Quoi qu'il en soit, le virus ne va pas disparaître comme ça en claquant des doigts. Donc il va bien falloir commencer par quelque chose. À voir. Voilà, peut-être qu'on va réouvrir pour refermer, mais je sais pas.
D'autant plus que le 11 mai, c'est hypothétique à partir du moment où les Français respectent le confinement strict imposé par le gouvernement. On voit de plus en plus de personnes aussi qui sortent un petit peu, qui prennent leur voiture. Ce respect partiel, c'est quelque chose qui peut t'inquiéter sur une reprise le 11 mai ?
Oui, c'est-à-dire que là, clairement, c'est pas vraiment, ça a été annoncé hypothétiquement comme étant le 11 mai, mais c'est sûr que finalement il y a rien de certain, et donc on envisage, mais on ne sait pas. Ça se trouve le week-end juste avant le 11 mai, on va nous dire non, c'est reparti encore pour 2 semaines de confinement. Et puis peut-être aussi que la reprise sera pas au même moment pour chaque région aussi de France, sachant que l'Île-de-France est la région deuxième région la plus touchée après le Grand Est. Peut-être que ça sera pas directement pour le 11 mai non plus. Donc c'est un peu compliqué de prévoir.
Et d'autant plus qu'on parle aussi de reprise progressive avec des classes moins nombreuses, parce que j'imagine reprendre avec des classes de 30 élèves, c'est peut-être pas non plus la meilleure des dispositions.
Oui, et puis en plus, c'est vrai que dans les classes, il y a une proximité certaine, hein. Les élèves sont les uns à côté des autres. Comment pourrait-on faire pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus éloignés, même s'ils portent des masques? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser, que les chefs d'établissement vont devoir réfléchir avec les équipes pédagogiques et puis même les agents. C'est compliqué. Et puis même avoir des classes à effectifs réduits, les professeurs peuvent pas se dédoubler, on peut pas engager d'autres professeurs. Je vois pas trop comment on peut faire des classes à effectifs réduits, à part si bien sûr l'initiative vient des parents qui enverraient peut-être pas leurs enfants à l'école. Mais sinon, ça me paraît quand même très compliqué.
Alors, parmi les mesures qui ont été aussi annoncées, cette différence de traitement entre les élèves du collège et lycée, qui devraient reprendre le 11 mai si tout se déroule bien, avec ceux de l'enseignement supérieur qui voient, eux, leur année terminée. Comment on peut expliquer cette différence de traitement ?
Alors, plusieurs choses. L'âge pense que la raison prioritaire, c'est l'âge, étant donné que les populations les plus jeunes sont a priori hein, les moins à risque, les moins touchées. Et puis la deuxième chose, c'est l'autonomie. Je pense que effectivement, les personnes qui sont en enseignement supérieur ont moyen de se débrouiller beaucoup plus facilement que des élèves de sixième, de troisième ou même de seconde ou de première, qui ont besoin d'un professeur pour les accompagner, qui ont besoin d'un professeur qui leur donne du travail, qui leur donne à manger, qui les nourrisse sur des plateformes avec qui ils peuvent avoir contact. Moi, je pense que pour avoir vécu des études supérieures assez longues, finalement, on arrive nous à étant étudiant à se débrouiller par ses moyens et puis à avoir accès aux plateformes, être beaucoup plus autonome hein, que les collèges et les lycées, sans parler évidemment des écoles primaires et maternelles. Je pense que c'est les deux raisons principales.
Au-delà de la vie scolaire au quotidien, c'est les épreuves scolaires telles que le brevet, le bac, etc. qui sont impactées. On parle d'une obtention de diplôme avec le contrôle continu. Une bonne option de remplacement selon toi ?
Oui, tout à fait. Alors moi, de toutes les manières qu'il soit, je suis pour et toujours pour le contrôle continu parce que même si évidemment quelques examens, ça fait pas de mal pour préparer les élèves au futur partiel ou examen qu'ils peuvent avoir après dans le post-bac, mais quoi qu'il en soit, le contrôle continu est pour moi une bonne solution puisque ça oblige forcément les élèves à être assidus tout au long de l'année. Alors là, évidemment, ils n'étaient pas prévenus avant, donc il y a certains qui auront sûrement des surprises et pour qui ça va pas être positif. Certainement, ça c'est déplorable bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, évidemment ça va pas impacter ceux qui ont l'habitude de bosser et qui se sont donné moyen toute l'année. Alors après, bien évidemment, ça va peut-être créer quelques inégalités entre les établissements scolaires, puisque le niveau demandé n'est pas toujours le même hein, dans les établissements à Henri IV à Paris, et puis dans un lycée de campagne ou un collège de campagne peut-être où les attentes sont moins élevées. Peut-être qu'il y aura des inégalités là-dessus, mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être la meilleure des solutions en ce moment pour les examens. Sachant que de toute façon, ça me paraît très compliqué de les envoyer passer un examen en ayant loupé deux mois d'école.
Deux mois d'école qui vont être à rattraper. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'issue finale. Quand est-ce que ça va réellement reprendre ? Certains médias, certaines personnes parlent d'un redoublement pour tous. Est-ce que ça serait une option plausible ?
Non. Moi, j'y crois pas du tout, pour la bonne et simple raison que le redoublement est vraiment l'issue de la dernière chance, mais vraiment, si on pense que les élèves, un élève, aujourd'hui, un élève qu'on fait redoubler, c'est un élève pour lequel on sait qu'il va être capable de retravailler correctement pour rattraper son année. Clairement, les redoublements, aujourd'hui, ça représente très très peu de... un très très faible pourcentage. On fait plus beaucoup redoubler et ça serait presque une catastrophe de faire redoubler tous les élèves de cette année, parce que malgré tout, ça arrive ce confinement sur la dernière partie de l'année, donc on a quand même tout un semestre et demi qui a été effectué. Ça n'aurait pas vraiment de sens de faire redoubler tous les élèves de l'année 2019-2020. Enfin, à mon sens, ça n'aurait pas trop en tout cas, ça n'aurait pas un impact positif.
Bon, en dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir?
De retrouver mes élèves et puis de continuer à pouvoir enseigner en espérant que la situation se calme. Et puis je pense bien sûr à toutes les personnes qui se donnent à fond pour soigner ceux qui sont malades, et je pense à toutes les familles pour qui c'est difficile de travailler. En tout cas, moi en tout cas professeur, faites tout ce que je peux pour essayer d'aider les familles, d'aider les enfants, et le confinement, c'est pas les vacances, c'est pour tout le monde, voilà. Et voilà, j'espère que tout le monde s'en rend compte et que on se retrouvera avec le sourire quand tout ça sera terminé.
Merci beaucoup pour cet échange.
De rien.
Merci à Laura pour sa disponibilité. Ne bougez pas, on revient avec Alexis pour une chronique sur les témoins de Jéhovah. C'est juste après Lieutenant Nicholson et Judd Joa et leur titre Kay Piranha sur Radio Campus Angers.
C'est Kay Piranha, pas de soleil.
Sakai Piranha.
l'ivresse. Quatrième verre, ça caille, il n'y a pas de soleil. Ça caille, il n'y a pas de soleil. Chanson, chandail, sans chapeau de paille.
Sur Radio Campus Angers, il est l'heure maintenant de laisser la parole à Alexis pour une chronique sur les témoins de Jéhovah, et cela commence tout de suite et en musique.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur.
Non, je ne suis pas un fan de Renan Luce, mais il se trouve que cette musique était parfaitement adaptée à ma chronique d'aujourd'hui. Figurez-vous que moi aussi j'ai reçu une lettre, ce n'était pas il y a un mois, mais hier, et encore moins par erreur, puisqu'il y avait mon prénom, mon nom et évidemment mon adresse. Mais qu'est-ce qu'elle contient au juste cette lettre écrite à la main ? Je vous en propose tout de suite la lecture. Monsieur Alexis, ma famille et moi habitons dans votre région. Nous ne pouvons pas discuter personnellement au vu des circonstances actuelles, je me permets donc de vous écrire. Nous faisons connaître le site jw.org, traduit en plus de 1000 langues, et qui permet de répondre à des questions importantes comme celle-ci. Pourquoi tant de souffrances ? Comment gérer le stress ? Qui domine le monde ? Vous trouverez aussi des vidéos sur divers sujets, ainsi que la possibilité d'avoir un cours biblique personnalisé et gratuit. N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je vous prie de recevoir, Monsieur Robré, mes sentiments dévoués. Peut-être l'aurez-vous compris, mais le site jw.org n'est autre que le site officiel des témoins de Jéhovah. Et oui, ils sont partout, devant votre porte, à l'entrée des marchés, et maintenant par correspondance. En effet, une rapide petite recherche sur Internet m'a amené sur une page de leur site intitulée « La communication par lettres ». Sur cette page, le guide parfait pour tout bon témoin de Jéhovah pour prêcher la sainte parole à nous, pauvres pécheurs. une page ahurissante où fleurissent nombre de conseils, sophismes et éléments de langage. Petit exemple en vrac, indique ton adresse. Si tu penses qu'il n'est pas prudent de donner ton adresse, demande aux anciens si tu peux utiliser l'adresse de la salle du royaume. Par contre, n'indique jamais, en majuscule dans le texte, s'il vous plaît, l'adresse du Bethel comme adresse d'expéditeur. Je continue avec cet autre exemple, tout aussi savoureux. Si tu connais le nom de la personne, utilise-le. Cela évitera de donner l'impression que notre démarche est commerciale. En bas de page, on trouve évidemment un modèle de lettres, mais attention, il y est bien précisé. Le modèle de lettres présenté ici illustre ces points. Ne la recopie pas mot à mot à chaque fois que tu écris une personne de ton territoire. Adapte ta lettre en fonction de son objectif et des usages locaux. Évidemment, ma lettre ressemble comme deux gouttes d'eau à ce modèle, à 2-3 expressions près. Bref, l'expéditrice ne s'est pas trop foulée. Car oui, c'est une femme qui m'a envoyé cette lettre, puisqu'elle a pris soin de laisser son nom ainsi que son adresse en en-tête de cette lettre, au cas où l'envie de démarrer une torride romance épistolaire avec elle me prenait. Non, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est le fait que sur ma boîte aux lettres et mon interphone, il y a mon nom ainsi que celui de mon ancienne amie. Nous sommes en effet séparés depuis quelques temps. Pourquoi la lettre n'est-elle pas adressée à mon ancienne amie et moi? Pourquoi je reçois cette lettre maintenant? Comment a-t-elle su que je vivais dorénavant seul dans mon appartement? Drôle de coïncidence. Une nouvelle recherche sur internet grâce au nom de l'expéditrice et de son adresse m'amène à une société de nettoyage tenue par son mari. Or, je soupçonne plus que fortement cette société de s'occuper de l'entretien de mon immeuble. M'ont-ils repéré comme une personne isolée, seule et fragilisée? Je ne ferai pas de diffamation et n'accuserai pas sans preuve, mais là encore, la coïncidence est troublante. Elle s'est malheureusement trompée de cible, merci à elle de s'inquiéter pour moi, mais je vais très bien. Je pense en ces temps de confinement aux personnes fragiles et isolées qui pourraient être tentées de répondre ou d'accepter cette fausse main tendue, profitant d'une situation difficile pour lâchement tenter de recruter des fidèles comme un vulgaire démarchage commercial. On ne rappellera jamais assez les dangers de cette secte, car oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Une organisation trouble, célèbre pour sa terrible excommunication, annonçant tous les 15 jours la fin du monde et régulièrement pointée du doigt pour son silence sur les affaires pédophiles en son sein. Vous l'aurez compris, je ne les porte pas particulièrement dans mon cœur. Bref, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre.
Merci à toi Alexis pour cette chronique. Avant de clôturer cette émission, je vous propose un instant musical avec Skygaze et le titre Flying With You sur Radio Campus Angers.
I'm in love again. You scream so I'm so right.
Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est temps pour la Covidienne de rendre l'antenne. L'émission sera disponible en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique La Covidienne. Manon reprendra les rênes de l'émission à partir de lundi. Très bonne soirée et très bon week-end sur le 103 FM.